Frères et sœurs, je n'hésite pas à dire que l'Ascension n'est pas seulement un mystère, mais c'est aussi une énigme. Un mystère, c'est quelque chose que nous devons sans cesse approfondir, tellement c'est quelque chose de grand, de beau. Mais une énigme nous pousse à chercher, à réfléchir, et nous n'avons pas forcément la solution. Vous le savez sans doute, l'Ascension nous est racontée par saint Luc uniquement. Nous avons entendu dans la première lecture le récit des Actes des Apôtres qui fait suite immédiatement à l'évangile que nous avons entendu à l'instant. Les deux récits donc s'emboîtent l'un dans l'autre en quelque sorte et constituent en quelque sorte la charnière entre l'évangile proprement dit et le temps de l'Église qui désormais commence et l'Ascension prévue de la venue de l'Esprit Saint dans l'un contre l'autre que saint Luc racontera au chapitre 2 des Actes des Apôtres. Et donc dans ce récit, Jésus évoque son départ vers le ciel, mais il envoie aussi ses disciples en mission pour annoncer ce qu'il leur a dit tout au long de sa vie sur la terre et particulièrement lorsqu'il est ressuscité. Au terme de ces 40 jours passés avec eux, 40, c'est un chiffre qui symbolise une durée suffisamment longue, une maturation pour permettre à ses disciples de pouvoir partir. Le temps d'une grossesse, ainsi dire, et désormais l'Église est prête pour partir annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Mais Jésus s'en va vers le ciel après avoir béni ses apôtres. Il promet l'envoi de l'Esprit Saint, bien que dans l'Évangile de Jean, l'Esprit est déjà donné au soir de la résurrection. Mais voilà qu'il annonce aussi qu'il reviendra. Ce sont les anges, dans le récit des Actes des Apôtres, les anges qu'on avait vus au début de l'évangile de Saint-Luc, qui concluent en quelque sorte le message évangélique en annonçant que Jésus viendra comme il est parti. Et c'est là, d'une certaine manière, que pour moi constitue l'énigme de l'Ascension. Jésus annonce qu'il viendra, qu'il reviendra. Mais pourquoi donc doit-il revenir? Puisque désormais il est auprès du Père pour nous préparer une place, comme le dit saint Jean au début de son discours après la scène. Rappelez-vous, Jésus dit à ses disciples : je pars vous préparer une place, et quand je reviendrai vous chercher, c'est pour vous prendre avec moi, pour que vous soyez là où je suis, auprès de vous. Mais pourquoi donc Jésus veut-il revenir? Et voyez-vous, il y a comme une certaine incohérence, puisque nous savons tous que nous allons mourir. Et avant nous, des millions, des milliards d'hommes sont morts et sont déjà auprès de Dieu. Certes, ils ne sont pas encore parvenus à plénitude de la vision, mais bon, nous sommes en chemin et ils voient sans doute déjà Dieu d'une manière qui nous est inconnue, qui nous échappe. Alors, comment cela va-t-il se passer, cette venue, ce retour de Jésus? Alors que nous savons que bon nombre d'entre nous, nous serons sans doute déjà près de Dieu lorsque Jésus viendra. Faut-il entendre une venue personnelle pour chacun, chacune d'entre nous, lorsque nous serons invités à passer le seuil de la mort et à entrer dans la vie qui n'a pas de fin? Faut-il envisager qu'au terme de l'histoire, Jésus viendra bel et bien comme les partir. Une poignée d'hommes, les derniers à prendre, pour les entraîner, pour que ces derniers rejoignent les premiers. Bref, vous voyez, il y a une véritable question que je ne suis pas prêt à résoudre ce soir. Et d'une certaine manière, Jésus, vous l'avez constaté déjà à la crise, nous laisse toujours sur notre faim. Plutôt, il veut creuser sans cesse notre désir. Ainsi, lorsque dans les actes des apôtres, nous avons entendu, les disciples posent cette dernière question qui montre qu'il y a encore un décalage entre Jésus et eux. Seigneur, quand est-ce que tu viendras rétablir la loi du temps d'Israël? Et Jésus ne répond pas directement à cette question. Mais il leur dit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que lui-même a fixés dans son autorité. Et nous savons que la royauté de Jésus, elle a été déjà manifestée au sommet de la croix. Et que dans sa résurrection, Jésus nous manifeste qu'il est le maître de la vie. Et que déjà il a détruit la mort. Alors, nous sommes invités à continuer notre chemin. Et à rester, à attendre dans cette espérance de la venue de Jésus, de l'accomplissement de tout ce que le Père a décidé et qui s'achèvera dans son temps. D'une certaine manière, c'est sur cette promesse qui peut nous laisser quelque peu insatisfaits, mais qui en tout cas ne doit certainement pas épuiser notre foi et notre espérance, et qui nous invite d'ores et déjà à témoigner à temps et à contre-temps de ce message que nous avons entendu durant son temps pascal. Sans l'Esprit Saint, il ne nous est pas possible de confesser que Jésus est Seigneur et Sauveur. Sans l'Esprit Saint, il ne nous est pas possible de tendre vers cette espérance. Il ne nous est pas possible d'envisager qu'au-delà de cette vie, il y a un bonheur sans fin qui nous est promis. Voyez-vous, frères et sœurs, si le Christ nous a dit qu'il va venir, qu'il va revenir, c'est bien pour nous faire comprendre que désormais il ne nous appartient pas. Il ne remonte pas au ciel en oubliant ce qu'il a laissé sur la terre. Mais au terme, lorsque Dieu le voudra, nous serons tous réunis, rassemblés dans son amour. Et nous partagerons la gloire de Jésus. Cette vie qu'il a menée sur la terre, pour nous, s'épanouira auprès de Dieu. Alors, même si nous n'avons pas la clé du mystère, continuons à chercher. Demandons au Seigneur que, avec la force de son esprit, nous puissions, au milieu de ce monde quelque peu déboussolé, trouver une orientation, donner un sens à ce message évangélique qui nous est confié. Et puissions-nous, comme les apôtres, repartir dans la joie et vivre jour après jour en étant certains que tout s'accomplira tel que Jésus nous l'a dit.